Bonjour à tous, Maryse Lepage, votre formatrice en management. Alors, je vais vous faire un petit débriefing de l'examen avant de vous proposer le corrigé type hein, qui viendra, je pense, bon, d'ici une dizaine de jours. Tout d'abord, petite remarque amusante. Les fondateurs Michel et Augustin, ben, ils ont la même formation que moi, EAP-ESCP Europe. Et puis, en plus de ça, il y a pas mal de références à Ben & Jerry's, qui était un cas que j'avais proposé en USET, mais il y a quelques années, parce que ça commence à être un petit peu ancien maintenant. Mais bon, donc, j'ai parfois pu l'évoquer. Et puis, ces deux thèmes essentiels que j'avais indiqués, c'est-à-dire le thème de l'entreprise libérée et le thème de la croissance des PME, notamment au niveau international. Donc, je pense que vous n'avez pas dû être trop surpris à ce niveau-là. Bon, d'autre part, là, cette année, il y avait bien un lien entre l'étude de cas et la dissertation, hein, c'était un petit peu le même thème dans lequel on restait. Bon, maintenant, je vais passer aux questions de l'étude de cas et puis vous donner quelques indications sur chaque question. Petite remarque également, il n'y avait pas de surprise quant à la pondération puisque l'étude de cas était sur 12 points et la dissertation sur 8. Alors, concernant l'étude de cas, première question, les traits de personnalité des fondateurs. Bon, vous aviez toute une description là-dessus. Hein, donc, bon, c'était plus à la limite de la sociologie, mais là, ça, je pense que ce n'était pas trop difficile. Concernant la compatibilité des personnalités, bon, ce n'est pas qui se ressemble, s'assemble, mais plutôt complémentarité de deux personnalités plutôt opposées. Et ce sont des entrepreneurs au sens de Schumpeter. Bon, ben là, c'est absolument évident, puisqu'ils ont créé une entreprise, ils ont investi des fonds personnels, ils se sont investis eux-mêmes personnellement sur une idée novatrice. Ce sont des créateurs et c'est cet aspect création qui les intéresse, qu'ils ont reproduit dans leur société au niveau des salariés qu'ils embauchent. Et puis, bon, on voit qu'ils continuent à s'investir. Hein, l'un est allé s'installer aux États-Unis pendant 2 ans pour assurer le développement aux États-Unis, etc. Hein, donc là, ce sont bien des entrepreneurs. Ensuite, concernant le modèle ressources et compétences, alors toujours pareil, il faut bien lire les questions. On vous dit après avoir défini ces concepts, donc il faut commencer par définir les concepts et puis donc identifier ces fameuses ressources et ces compétences. Donc ça correspond au diagnostic interne du potentiel de l'entreprise. Bon, vous pouviez faire référence à Eric Penrose hein, pour cette théorie des ressources et des compétences. Bon, si vous avez oublié de le citer, c'est pas grave. Les ressources, ce sont les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Et puis pour les compétences, il fallait voir les compétences individuelles. C'est-à-dire le savoir, hein, savoir-faire, savoir-être, et puis les compétences collectives. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans cette société, puisque c'est basé d'abord sur la personnalité de chaque salarié, hein, sur sa créativité, mais il y a aussi toute une mise en commun et une dynamique de groupe qui existe dans cette société-là. Vous pouviez aussi faire référence au diagnostic et à l'analyse de la chaîne de valeur hein, pour cette question. Ensuite, la question 3, les modalités de croissance d'une entreprise. Bon, ça, vous le connaissez par cœur, hein. Croissance interne, croissance externe, croissance partenariale et développement à l'international. International pouvant lui-même se décliner entre interne, externe et partenarial. Et puis la théorie des coûts de transaction, bon ben ça c'est de Corsey Williamson. Et bon ben il fallait énoncer cette théorie, ensuite indiquer comment est-ce que l'entreprise s'est développée hein, dans chacun de ces domaines-là, hein, dans chacune de ces voies. Bon, il y a eu des périodes différentes, hein, des périodes où ça a été plutôt de la croissance interne, après de la croissance partenariale. De la croissance à l'international, donc c'était ce qu'il fallait indiquer. Ensuite, les bénéfices et les risques du rachat progressif de Michel et Augustin envisagés par Danone, bon, non seulement envisagés par Danone, mais qui commencent déjà à être effectifs. Là, il fallait faire attention au mot progressif, hein. Donc, cet aspect de progressivité présente des avantages. Et il faut aussi se placer à la fois du point de vue de la société Michel et Augustin, et puis aussi du point de vue de Danone. Hein. Parce que bon, la question n'est pas extrêmement bien formulée, hein, puisqu'on ne sait pas pour qui sont les bénéfices et pour qui sont les risques. Il valait mieux étudier ces deux cas de figure, hein, de façon à être sûr de bien répondre à la question. Ensuite, le processus de recrutement. Bon, bah, ça, c'était intéressant, hein. C'est un processus vraiment particulier. Les spécificités, il n'y a pratiquement que des spécificités dans ce recrutement. Et bon, bah, les choix, c'est évidemment parce qu'ils recherchent en priorité la motivation, la créativité des individus qui vont être recrutés et puis la possibilité d'une excellente intégration au sein d'une équipe. Et bon, c'est une entreprise qui est porteuse de valeurs très importante et la dynamique de groupe là joue un rôle essentiel. Donc, il faut que ce soit des individualités qui soient compatibles entre elles. Et ensuite, 6, la démarche de RSE. Bon, ben, vous aviez différents éléments là-dedans. La responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est vis-à-vis des parties prenantes externes, vis-à-vis des parties prenantes internes. Et donc, il fallait étudier chacun de ces points-là. Ensuite, pour le développement structuré, PME et stratégie d'internationalisation, bien, commencer par définir ce qu'est une PME, et puis ensuite voir la nécessité pour les PME de se tourner vers des marchés mondiaux. Parce que sinon, si elles restent sur leur marché national, eh bien, elles sont trop limitées, puisqu'elles vont être fortement concurrencées par des sociétés étrangères, notamment de pays émergents, où les coûts de main-d'œuvre sont beaucoup plus favorables. Hein. Et donc, pour pouvoir lutter contre ces autres entreprises, elles doivent elles aussi avoir un raisonnement mondial, d'autant plus que les PME françaises sont souvent des sous-traitants, hein, de grands groupes qui n'hésitent pas à les mettre en concurrence avec des sociétés étrangères. D'autre part, c'est ce qui permet à un tissu industriel d'être important, d'être dynamique. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est surtout un tissu de grosses PME qui existent et elles sont tout à fait tournées vers l'international. Hein, la balance commerciale allemande est positive, hein, elle est excédentaire grâce justement à ces PME. Or, les PME françaises sont trop timides à ce niveau-là et suivant l'exemple donc de Michel et Augustin, ce sont celles qui se tournent vers l'international qui sont les plus performantes. Donc, c'est pour cette raison qu'une stratégie d'internationalisation est quelque chose d'essentiel pour une PME. Donc ça pouvait être une première partie. Hein. Pourquoi une stratégie d'internationalisation est utile? Nécessaire à la survie et la croissance d'une PME. Et puis ensuite, la deuxième partie, ça pouvait être les moyens de l'internationalisation. Alors, indiquer que les moyens financiers internes, hein, l'autofinancement pour les PME, c'est un petit peu limité. Ça ne peut pas aller suffisamment vite. Donc, une des modalités de croissance à l'international pour les PME, ça peut être le partenariat, hein, les accords passés, éventuellement avec de grands groupes pour faire, j'ai le mot qui me manque là, du portage, ou sinon avoir des accords avec des distributeurs à l'étranger, hein, avec d'autres groupes à l'étranger, comme c'est le cas pour Michel et Augustin, hein, ou les GIE, hein, des PME françaises qui s'associent entre elles pour se développer à l'étranger, etc. Là, utilisez toutes vos connaissances, hein, et votre imagination pour voir toutes les modalités de développement qui peuvent exister, en vous souvenant que le développement, la stratégie d'internationalisation, c'est de la croissance interne, externe ou partenariale, et gardez en tête les contraintes des PME, hein, et leurs moyens dont elles disposent. Voilà un premier petit débriefing, hein. J'espère que vous êtes allé dans ce sens-là. Vous aviez toutes les connaissances, vous voyez, qu'il fallait pour pouvoir traiter ce sujet. Il y avait une grande partie où c'était aussi de la compréhension et du bon sens. Vous pouviez tout à fait vous en sortir à condition de bien gérer le temps, hein, et d'arriver à tout boucler. Voilà, la suite dans quelques jours. Au revoir à tous.